pour cette deuxième séance des rendez-vous littéraires de l'École des hautes études en sciences sociales, cycle Penser le monde, réfléchir l'écriture, en partenariat avec la Maison de la Poésie et le laboratoire d'excellence TEPSIS. J'ai le très grand plaisir de recevoir, après Éric De Luca qui est venu en janvier dernier, Camille Laurence, autour du thème littérature et réflexivité. La littérature partage avec les sciences humaines et sociales cette dimension réflexive. Elle pense et se pense, observe et s'observe. Cette dimension réflexive est centrale dans l'œuvre de Camille Laurence, œuvre prolifique qui explore les genres et des formes tout à fait diverses. Elle est présente tant dans ses romans que dans ses écrits fictionnels, autofictionnels, pardon, et bien sûr dans ses essais. Alors le travail réflexif, il faut faire à plusieurs niveaux. Au niveau thématique, par l'étude des passions dans la tradition des moralistes, de la relation amoureuse, de la condition féminine, du deuil, mais aussi des interactions et des conversations. Camille Laurence puise les matériaux de ses observations dans la vie, dans sa propre vie, et dans les tréfonds de sa propre conscience, voire de son inconscient, et là c'est selon une veine psychanalytique cette fois. Et la réflexivité concerne également l'écriture, à travers la question des rapports entre fiction et réalité, à travers la question du récit de soi, de la lecture, et surtout de la forme. Et en fait, chaque livre explore une forme particulière, par exemple l'enquête policière, et donc le polar dans Index, l'entretien psychanalytique dans Ces bras-là, l'écriture d'un scénario dans Ni toi ni moi. Alors on va commencer par Index, qui est ton premier livre. Claire Després achète par hasard un roman intitulé Index, qui a pour auteur Camille Laurence. Elle n'aime pas les romans policiers, mais découvre dans ce roman sa propre histoire. Le récit est la quête de Claire pour découvrir qui est l'auteur de ce récit. Le lecteur souscrit d'abord à la thèse la plus plausible, qui est celle de l'éditeur, qui lui répond que c'est la force de la littérature que les lecteurs se reconnaissent dans tout roman. Mais en fait, cette explication est détrompée. Et de manière générale, ce récit recourt au ressort du suspense du roman policier, on trompe en permanence les attentes, mais aussi en rompant les règles de la vraisemblance. Il y aurait bien quelqu'un qui aurait écrit cette histoire à partir des traces de la vie de Claire et aurait tout fait pour qu'elle arrive entre ses mains. Et en cherchant Camille Laurence, Claire ne tombe que sur un professeur de tango. Alors comment est né ce projet ?
Mais en fait, c'était une époque où je lisais beaucoup de romans policiers. Je m'étais déjà essayée à l'écriture, mais de façon très ponctuelle et sur des textes courts. J'avais envie d'écrire un roman et qui soit une enquête policière, mais une enquête littéraire. Et donc j'ai imaginé cette femme qui croit acheter par hasard, parce qu'en fait on s'arrange pour qu'elle lise ce livre, elle croit acheter par hasard un roman et elle se rend compte que ce roman, donc intitulé Index, raconte sa propre vie. Et elle va, comme un détective, partir à la recherche, en effet, de cet auteur. Alors, je travaillais en même temps sur une pièce de théâtre, parce que je faisais du théâtre avec mon mari à l'époque, et nous montions une pièce inspirée de l'œuvre de Borges, et notamment de la figure du labyrinthe qui hante toute l'œuvre de Borges. Et je me suis dit, je vais construire un labyrinthe pour le lecteur, qui est aussi le labyrinthe dans lequel s'enfonce le personnage, Claire Després, puisqu'elle mène cette enquête qui l'amène à des fausses pistes, elle est obligée de repartir en arrière. Elle aboutit effectivement chez un homonyme qui s'appelle Camille Laurence, donc qui est un homme, et elle ne sait même pas si l'auteur qu'elle recherche est un homme ou une femme. Et c'est d'ailleurs là l'origine du pseudonyme que j'ai pris à ce moment-là, puisque pour cette mise en abîme, je voulais que Claire Després ne sache pas immédiatement si l'auteur du livre qu'elle avait entre les mains était un homme ou une femme, puisque ça compliquait son enquête. Et donc je devais moi-même prendre une identité littéraire qui soit mystérieuse, qui soit épicène. Bon, voilà. Donc j'ai pris ce prénom, Camille. Et puis j'ai rajouté Laurence, qui est en fait mon vrai prénom, en modifiant un peu l'orthographe. Mais le point de départ, quand on me demande pourquoi j'ai pris un pseudonyme, ce n'est pas du tout pour me cacher de mon entourage, c'est vraiment pour des raisons littéraires, pour la construction de ce livre.
Oui, et comme tu l'expliques, parce que Index donc, vient d'être réédité chez Gallimard avec une introduction, une préface très intéressante, et comme tu le dis, il y avait aussi un débat à l'époque sur la question du sexe de l'écriture, et c'était aussi une manière de répondre à ça, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle pense tout de suite que l'auteur est forcément un homme, et il y a aussi un débat sur pourquoi elle pense que c'est le point de vue masculin sur son histoire.
Oui, ça m'amusait beaucoup de poser cette question-là, et d'ailleurs j'ai été récompensée, puisqu'au moment où ce roman est sorti, c'était mon premier livre, donc personne ne me connaissait, certains journalistes, certains critiques ont assuré que l'auteur était un homme. Je ne citerai pas un critique célèbre qui a écrit à ce moment-là qu'on voyait bien par le style que Index avait été écrit par un homme. Voilà. Et donc, je suis d'autant plus contente que c'est un questionnement sur l'identité qui, je pense, est vraiment un des fondements de mon travail ultérieur, cette question d'identité.
Donc, selon toi, l'écriture n'est pas genrée ?
Non, alors oui, à l'époque, c'était donc tout début des années 90, on se posait beaucoup la question de savoir s'il y avait une écriture féminine, est-ce qu'on pouvait distinguer ou non. Donc c'était amusant, en pratique, de montrer que ce n'était pas si simple.
Et puis aussi le projet... en fait, encyclopédique de Borges, tu reprends l'alphabet.
Oui.
D'ailleurs, Maurice Nadeau t'avait demandé pourquoi est-ce que ça s'arrête à la lettre F.
Oui, je l'avais envoyé à Maurice Nadeau, qui m'avait répondu de manière très, très charmante et très positive en me disant « Mais pourquoi ça s'arrête à la lettre F ?» puisque je commençais l'alphabet, ça s'appelle Index. Les chapitres commencent tous par une lettre de l'alphabet, donc en suivant l'alphabet. Donc là, ça va de A à F, et j'ai écrit trois autres romans ensuite, qui ont poursuivi cet alphabet jusqu'à l'avenir, le quatrième de la tétralogie, qui se termine donc par la lettre Z et le chapitre Zygote. Mais il se trouve que quand j'ai envoyé à quelques éditeurs ce premier roman, j'ai évité de leur dire que j'avais le projet d'aller jusqu'à Z, parce que je me disais, bon, ça va les effrayer un peu, mais j'avais bien ça derrière la tête.
Alors c'est aussi un livre sur la lecture, c'est une dimension très importante d'ailleurs dans toute ton œuvre. Il y a toujours la question de la lecture qui apparaît, il y a toujours un personnage qui lit. Et j'aimerais bien que tu lises le chapitre bouquin d'Index.
Pour Claire Després, aucun livre n'avait jamais eu d'importance. Elle lisait peu, faute de temps. Sinon les journaux et de somptueux ouvrages d'art qu'elle classait par siècle dans sa bibliothèque. Le premier tome des Mémoires d'Outre-Tombe calait depuis son emménagement à Paris le pied d'une armoire normande dont le poids avait dû en souder définitivement les 600 pages. Elle voyait parfois, en flânant sur les quais, de ces bouquins fanés qui lui semblaient n'avoir d'autre fonction que celle de compenser dans les appartements anciens la dénivellation des planchers. Elle emportait volontiers en vacances un gros volume choisi parmi les meilleures ventes qui perdait avant la fin de l'été ses pages ensablées. Elle achetait aussi quelquefois un livre au hasard dans une gare. Elle lisait alors comme d'autres fument, ses doigts tournant les pages comme ses lèvres auraient soufflé la fumée. En de rares occasions, le livre pouvait encore tenir le rôle d'accessoire dans certaines mises en scène de la vie. Ainsi, Claire avait-elle elle-même organisé l'espace de son appartement en fonction d'une grande fenêtre vis-à-vis de laquelle était apparu, un soir de juillet, sur un balcon forgé, un vieux volume entre les mains, un assez bel homme à fines lunettes d'or. Le chambranle de la fenêtre était dès lors devenu le cadre d'un tableau, le double rideau d'un théâtre. À l'intérieur, avec l'application d'un peintre, Claire avait arrangé son pupitre d'architecte et sa lampe, une petite table parée d'un vase guilloché qu'elle fleurissait, et la partie gauche de sa bibliothèque consacrée aux églises romanes et à l'art gothique en Europe. Claire savait exactement ce qu'on voyait par cette fenêtre, une illusion de travail et de génie qu'elle se plaisait à entretenir presque pour elle-même, à l'aide de livres et de bouquets. Le reste était désordonné, hors champ, dans l'ombre. L'été, sans volet ni voile, lorsqu'elle se sentait un peu seule, et bien que le balcon depuis fût resté vide, elle se donnait en spectacle avec équerre et thé verni, le front sage. De temps en temps, elle allait consulter sans raison les gravures d'un beau livre qu'elle compulsait lentement, feignant pour un public absent, tout en achevant modestement les plans d'une caisse d'épargne, d'ourdir la construction d'une cathédrale. Le livre, donc, servait de code, comme tant d'autres objets. Il ressemblait à ses chaussures qu'elle regardait aux pieds des hommes, évaluant discrètement, d'après la marque et l'entretien, non la grâce du pied, mais la qualité du propriétaire. Aucun ne l'avait jamais touché au-delà d'une émotion raisonnable. Le dernier qui ait un peu agité son cœur était celui qu'elle avait ramassé dans la frégate de 18h10. Ses bouleversements prenaient leur source ailleurs. Lycéenne, elle avait dû plancher sur cette phrase de Montesquieu : « Je n'ai pas eu un chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. » Pour elle, le contraire était vrai. Elle ne se rappelait pas une heure de lecture qu'un chagrin n'ait dissipé sans retour. Évidemment, il y avait les livres de son adolescence, livres de cuisine et d'école, romans pas coupés, pas finis, prêtés, pas rendus, donnés, pas lus, survolés, dévorés, somme d'une vie, romans d'un jour, cousus, brochés, collés, décollés, pages envolées, marges annotées, lignes soulignées, papier bible, fond d'image, dédicaces promises, cadeaux, volumes traversant la pièce comme un oiseau dégingandé, heurtant l'épaule ou le visage, aveugle, déjà mort, étalé par terre. « Mon livre préféré !» disait-elle alors. Et elle pleurait. Il y avait ce livre, passionnément dédicacé, « À toi, ma joie, mon vitriol », dont on avait de rage arraché la première page, elle savait bien qui, mais c'était loin. Elle recopiait longuement des poèmes entiers d'Éluard et d'Apollinaire qu'elle envoyait par lettre à... Leur goût pourtant s'opposait. Ils préféraient Hamet et Edgar Allan Poe. Et puis deux ou trois livres qu'elle avait oublié de rendre à la bibliothèque du lycée, mais son père était proviseur. Un qu'elle avait donné une fois dans l'autobus à un jeune Algérien, Les nourritures terrestres. Il l'avait suivi, il habitait Constantine, elle avait eu du mal à s'en débarrasser. Plus tard, au Maroc, le roman en projet d'Alexandre Blache, son professeur pour quelques mois, l'avait un moment fascinée. Il n'avait que quelques années de différence. Elle l'écoutait, flattée d'appartenir à son audience, écrire son œuvre après les cours, au café, sans trop y croire, bien que tournant gravement son visage vers le fouet des embruns, il prit quelquefois le phare d'El Hank pour l'extrême pointe du Grand B. Et maintenant, son livre encore en chantier incarnait tous les livres, irréels et bavards. Quoi d'autre ? Rien. Elle avait beau se souvenir, aucun livre n'avait eu d'importance. Comment un livre peut-il changer la vie ? Sa lecture soudain nous libère, nous éclaire sur ce que nous n'avions osé faire ? Une phrase en lui nous guide et nous bondissons de notre chaise ? Nous marchons dans la rue solitaire, le livre tombe, on nous le rend comme un gant, un mouchoir d'autrefois, l'histoire commence ? Ou bien le livre tombe, nous nous baissons et les roues d'une voiture nous écrasent. Le livre s'est simplement ouvert à une page où dort un signet d'herbe sèche, notre passé, et nous lisons noir sur blanc le texte impossible et clair du secret que nous croyons garder, tel Claire redécouvrant dans son livre une main devant la bouche, tant d'années après, comme sur l'ardoise magique où ne s'effacent pas les choses qu'on efface, cette chose abominable qu'elle a faite un jour.
Merci Camille pour cette lecture. Alors le tournant vers ce qu'on appelle l'autofiction est en fait étroitement lié à Philippe, hein, ce livre qui est le récit de la mort de ton premier enfant à la naissance suite à une erreur médicale. D'ailleurs le prénom de Philippe apparaît dans tous tes livres, y compris les essais. Et bon, par-delà le récit poignant de la souffrance et de la perte, il y a toute une réflexion sur la relation médecin-patient qui donne à voir le rapport de domination, le rapport de dépossession qui réduit le patient à l'impuissance et qui prend ici la forme la plus tragique, la plus brutale, en renversant la relation de soins à son contraire. Et d'ailleurs, tu avais dû modifier l'identité du médecin en question.
Oui, parce qu'il se trouve que quand j'ai écrit ce livre, bon, il y avait évidemment pour moi c'est même pas le projet, parce que ce n'était pas un projet de livre, mais en tout cas le désir, la nécessité de dire ce que j'éprouvais à ce moment-là, puisque j'ai commencé à écrire le lendemain de la mort de Philippe, sur des petits bouts de papier, enfin, sans aucune intention de faire un livre. Mais ensuite, quand j'ai eu le rapport médical, le rapport d'expertise, le rapport d'autopsie, j'ai eu envie de comprendre aussi ce qui s'était passé à l'extérieur, c'est-à-dire quelque chose que je n'avais pas compris, que j'avais vécu et que je n'avais pas compris, puisque en réalité, pendant tout le temps de l'accouchement et de la naissance, Philippe était en train de mourir et je ne le savais pas, alors que j'avais le monitoring, j'avais l'écran en face de moi et je ne savais pas ce qui se passait et je l'ai compris après. Et il est vrai que ça s'est tellement mal passé avec ce médecin, évidemment pendant, puisqu'il n'a pas fait les gestes qu'il aurait dû faire, et ensuite, puisqu'il a vraiment nié toute sa responsabilité et n'a même pas accordé aux parents les condoléances qu'on pouvait attendre. Voilà, j'ai vraiment eu envie de dire quelque chose du milieu médical. Bon, pas dans son ensemble, évidemment, c'est une expérience subjective et j'espère rare, mais en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose de terrible de découvrir à quel point l'univers médical pouvait être terrifiant, déshumanisé, et ça s'est poursuivi après la publication de Philippe, puisque l'Ordre des médecins dans la ville où j'avais accouché, enfin, tous les médecins ont écrit pour soutenir leurs confrères, enfin, ça a été, il y a des lettres de médecins qui ont été jointes au dossier au moment du procès, puisque ce médecin fait un procès, il a fait un procès pour diffamation, qu'il n'a ni gagné ni perdu, puisque ça s'est terminé par un arrangement à l'amiable, ce qui est un mot terrible, par lequel nous renoncions nous-mêmes à avoir le fin mot de l'histoire du point de vue médical, et lui renonçait à son procès en diffamation. Procès qui, d'ailleurs, n'aurait pas dû avoir lieu, puisqu'au moment où j'ai publié ce livre, mon éditeur a fait relire le manuscrit par un avocat qui m'a dit que je pouvais laisser son nom, son vrai nom, puisque j'avais ce qu'en droit on appelle d'un très beau nom l'excuse de la vérité. Et en réalité, l'excuse de la vérité, comme on le voit d'ailleurs en littérature, ne fonctionne pas très bien non plus en droit, puisque il y a quand même eu ce procès.
Oui, parce qu'il mettait sous la coupe de la diffamation quelque chose qui était de l'ordre de la vérité. Était,
voilà, mais comme c'est, ce dit, faits, c'est ce qu'avait dit l'avocat.
Parce qu'il y avait la dimension de faute médicale grave. Voilà. Donc, il se protégeait professionnellement. Mais ça nous rappelle aussi que la question des noms propres, c'est le philosophe Saul Kripke qui dit que les noms propres sont vrais dans tous les mondes possibles, et c'est vrai aussi dans les mondes fictionnels. Et tu en as d'ailleurs fait aussi l'expérience pour L'amour roman, ce très beau livre sur la séparation. Alors dans Index, l'étudiant qui rit de l'histoire de Claire, incrédule, il dit « Dans les romans, on devrait mettre en page de garde comme dans les films, toute ressemblance avec des personnes mortes ou vivantes serait pure coïncidence. » Ce qui se fait d'ailleurs dans certains cas. Oui. Et en fait, cette phrase sert à protéger juridiquement l'auteur, car la loi dit que toute personne qui se reconnaît dans une fiction, même si elle n'est pas nommée, peut engager des poursuites. Or, le choix, évidemment, de l'autofiction expose encore plus l'auteur à de telles poursuites. Et c'est l'expérience que tu as faite avec ton ex-mari qui t'a poursuivi pour L'amour roman. Et je voudrais qu'on évoque ce jugement parce qu'il constitue un précédent très intéressant. En fait, il a perdu son procès, le tribunal ayant reconnu que le récit avait une dimension exemplaire et universelle qui transcendait le cas particulier. Bien qu'il s'agisse d'une histoire très singulière.
Oui, c'est un procès qui est souvent utilisé en jurisprudence, malheureusement de plus en plus, puisque les procès pour atteinte à la vie privée se multiplient dans le domaine littéraire. Et d'ailleurs avec beaucoup moins de succès pour les auteurs que je n'en ai eu, puisque mon ex-mari a en effet perdu son procès, le jugement reconnaissant la dimension esthétique d'une œuvre, bien qu'elle emprunte nécessairement, dit le jugement, au vécu de l'auteur. Voilà. D'ailleurs, en l'occurrence, il y avait très peu d'arguments, puisque l'atteinte à la vie privée consistait seulement dans le fait d'avoir gardé, non pas les noms de famille, qui d'ailleurs n'étaient pas Laurence, puisque comme je vous l'ai expliqué, Laurence n'est pas mon vrai nom, et j'avais juste gardé les prénoms, notamment donc, le prénom qui est un prénom courant de mon ex-mari. Donc j'ai changé, simplement dans l'édition suivante, j'ai changé les prénoms. Donc maintenant, il s'appelle Julien, puisque c'est l'homme avec lequel Julien.
Et comment tu avais vécu ce procès ?
Assez mal, parce que un procès comme ça, c'est l'intrication, et ça c'est impossible à expliquer publiquement, et d'ailleurs c'est très difficile à expliquer de manière générale, mais c'est l'intrication de la vie privée, là, vraiment, et du ressentiment, et de la douleur. Et donc c'est... Enfin, je comprends la démarche, même si je pense qu'elle n'a rien à voir avec la littérature. C'est le cas souvent, enfin, je n'ai pas observé tous les procès qui ont été intentés ces dernières années, mais je pense que il doit y avoir une éthique, évidemment, de l'écrivain, mais je pense qu'il serait bien aussi qu'on réfléchisse à une éthique du lecteur.
Oui, le lecteur projette ce qu'il veut dans les... Oui. C'est le portrait de Dorian Gray. Hein, voilà.
Mais le lecteur devrait aussi réfléchir à...
La responsabilité du lecteur.
Oui,
oui. Oscar Wilde avait réfléchi à la question, en effet. Mais on n'a pas beaucoup tiré de conclusions de ce qu'il en a dit. Alors, tu parlais de la dimension esthétique, et en même temps, pour toi, il y a une citation dans « Ni toi ni moi », l'auteur écrit au réalisateur, dans une œuvre d'art, la beauté ne doit jamais rien cacher. Et il est beaucoup question dans ce livre d'illusion, de la question de l'illusion de l'art. Voilà, donc je voulais que tu évoques le souci de vérité, dans quelle mesure il fonde ton projet autofictionnel. Voilà.
Oui, alors ce n'est pas une vérité, ce n'est pas la vérité avec un grand L et un grand V, hein, ce n'est pas la vérité qu'on va poser comme un bloc de béton sur la table, c'est tout le contraire, c'est la vérité comme précisément insaisissable et multiple et protéiforme et ambiguë, et c'est cette vérité-là qui m'intéresse. C'est cette vérité qui est très proche de ce que Proust appelle le livre intérieur, c'est-à-dire l'idée que le monde extérieur a fait impression en nous, s'est imprimé en nous de toutes les façons possibles, et que nous devons décrypter ce livre intérieur et ensuite l'exprimer, notamment par la littérature, le faire partager. Donc c'est dans cette perspective proustienne, puisque Proust est un de mes auteurs fétiches, que je comprends la notion de vérité, d'une vérité nécessaire, puisque dans ce même passage, c'est dans le temps retrouvé, dans ce même passage où Proust évoque le livre intérieur, il fait la distinction entre les vérités logiques et les vérités nécessaires, disant que les vérités logiques, c'est celles qu'on peut trouver dans un roman entièrement fictionnel, où on va avoir une logique psychologique, on va avoir une logique des événements, mais pas forcément une vérité nécessaire. Voilà. Et il fait la différence en disant quelle est la différence entre les vérités logiques et les vérités nécessaires. Eh bien, les vérités logiques Elles peuvent être tout à fait justes, mais nous ne savons pas si elles sont vraies. Et voilà, c'est exactement le souci que j'ai.
Et alors, dans la forme de l'écriture, le choix de ne pas recourir ou de la recourir à la fiction d'une manière très spécifique, tout en passant le pacte d'une certaine manière, d'une certaine dimension autobiographique, on peut aussi le relier au genre autobiographique, je pense évidemment à Si le grain ne meurt de Gide, et en même temps, l'autofiction s'en démarque, donc comment est-ce que tu conçois cette relation au genre autobiographique ?
Oui, Gide a vraiment ouvert la voie. Enfin, elle avait déjà été ouverte avant lui, mais dans l'analyse des interdits, de la sexualité, des tabous, André Gide a été déterminant pour moi. C'est vraiment un auteur que j'ai beaucoup lu à l'adolescence. D'ailleurs, également pour la forme, les faux monnayeurs étaient très, très importants. La mise en abîme d'index, c'est vraiment directement issu de ma lecture des faux monnayeurs de Gide. Disons que ce qui est intéressant dans l'autofiction, c'est non pas le mélange de fiction et d'autobiographie, comme on dit parfois, mais le fait que l'autofiction, d'une certaine manière, dit noir sur blanc que l'autobiographie est impossible de manière brute ou sincère, comme on le dit parfois, ce mot de sincérité qui engendre beaucoup de confusion, parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça voudrait dire être sincère ? Ça voudrait dire ne pas tenir compte de l'inconscient, ne pas tenir compte justement de la versatilité des différents moi, de la façon dont on peut passer d'une identité à l'autre, en fin de compte. Donc, je crois que l'autofiction, c'est l'autobiographie après la psychanalyse, après le développement des sciences humaines. Voilà, mais je tiens malgré tout à cette définition de l'autofiction qui est celle de Dubrovsky, puisque c'est lui qui a inventé le mot, qui a créé ce mot d'autofiction. C'est-à-dire un ouvrage dont la matière est entièrement autobiographique et la manière romanesque ou fictionnelle. C'est ça, c'est une façon d'utiliser les éléments de sa propre vie comme un matériau romanesque, comme avec des personnages, en étant soi-même un personnage, puisque précisément, dès que je m'écris, je m'invente, dit Dubrovsky, c'est ça, c'est que de toute façon, l'identité est une invention. Et c'est ce que dit très bien l'autofiction, je trouve.
Alors c'est vrai que la dimension psychanalytique, elle était centrale dans Si le grain ne meurt et aussi chez Léris dans L'âge d'homme, oui, enfin, dans tout ce genre autobiographique avec la question de la sexualité, la Camp de taureau aussi de Léris, et une manière de s'exposer, de parler de choses taboues, difficiles. Donc c'est vrai qu'on sent bien cette filiation dans ton œuvre, y compris des choses extrêmement indicibles.
Oui, c'est s'exposer au sens de Léris, exactement, c'est-à-dire à la fois se montrer, s'exprimer, et puis s'exposer, prendre le risque aussi de dire certaines choses qui ne sont pas anodines et qui ne sont pas forcément souvent audibles dans le paysage contemporain.
Et du coup, c'est vrai que la fictionnalisation, même des personnages ou des noms propres, elle n'a pas qu'une dimension de protection face à la loi. On sent qu'il y a aussi une éthique de l'écriture, d'une certaine manière.
Oui, mais c'est aussi une façon de dire que nous sommes tous des personnages. Mais c'est assez difficile à comprendre, j'ai l'impression, en tout cas, quand on n'écrit pas soi-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ces procès. C'est que ce sentiment que quand on écrit, il n'y a plus le moi, il n'y a plus les autres en tant que eux, avec leurs idiotismes, leurs particularités. C'est une recréation et c'est ça qui est difficile à faire admettre. Donc, changer les noms. c'est une façon parmi d'autres d'aplanir les difficultés aussi.
Et tu disais que, en fait, le moi devient un personnage. Et donc, du point de vue de la forme, dans tes écrits, le jeu est strictement encadré. Hein, ça différencie, en ce sens-là, aussi l'autofiction du genre autobiographique. Par exemple, je voudrais qu'on lise l'ouverture de Dans ces bras-là, où il y a une sorte de pacte avec le lecteur. Et donc, on voit bien ce rapport entre le jeu, la narratrice et puis le elle.
Ce serait un livre sur les hommes, sur l'amour des hommes. Objets aimés, sujets aimants, ils formeraient l'objet et le sujet du livre. Les hommes en général, tous, ceux qui sont là sans que jamais l'on sache d'eux autre chose que leur sexe, ce sont des hommes, voilà tout ce qu'on peut en dire. Et les hommes en particulier, quelques-uns. Ce serait un livre sur tous les hommes d'une femme, du premier au dernier, père, grand-père, fils, frère, ami, amant, mari, patron, collègue, dans l'ordre ou le désordre de leur apparition dans sa vie, dans ce mouvement mystérieux de présence et d'oubli qui les fait changer à ses yeux, s'en aller, revenir, demeurer, devenir. Ainsi, la forme du livre serait-elle discontinue, afin de mimer au fil des pages ce jeu de va-et-vient, ces progrès, ces ruptures qui tissent et défont le lien entre elles et eux. Les hommes feraient des entrées et des sorties, comme au théâtre. Certains n'auraient qu'une scène, d'autres plusieurs. Ils prendraient plus ou moins d'importance, comme dans la vie, plus ou moins de place, comme dans le souvenir. Je ne serais pas la femme du livre. Ce serait un roman, ce serait un personnage qui ne se dessinerait justement qu'à la lumière des hommes rencontrés. Ses contours se préciseraient peu à peu de la même façon que sur une diapositive dont l'image n'apparaît que levée vers le jour. Les hommes seraient ce jour autour d'elle, ce qui la rend visible, ce qui la crée peut-être. Je sais ce que vous allez dire. Et les femmes, les autres femmes, la mère, la sœur, l'amie, n'ont-elles pas autant de poids dans une vie, sinon davantage ? Ne compte-t-elle pas ? Elle ne compterait pas. Pas dans cette histoire. Ou très peu. Je donnerais au personnage ce trait précis de mon caractère, je le tiens de ma mère, ne s'être, pendant toutes ces années, intéressé, n'avoir pu s'intéresser qu'aux hommes. C'est ainsi. C'est un défaut, si vous voulez. Un défaut d'attention, une carence de l'esprit. Depuis toujours, elle regarde les hommes, rien d'autre. Ni les paysages, ni les animaux, ni les objets. Les enfants, quand elle aime leur père. Les femmes, quand elle parle des hommes. Toute autre conversation l'ennuie, elle y perd son temps. Elle peut visiter les plus beaux pays du monde, voir les pampas, les déserts, les musées, les églises. Tous les voyages lui semblent vains tant que n'apparaît pas, fût-ce en reflet, en mirage, en ombre chinoise, la trace d'un homme bleu, d'un gaucho, d'un Christ. Sa géographie est humaine, strictement. Elle ne fera jamais un kilomètre pour contempler seule un lever de soleil, une falaise ou les lignes au loin du Mont Blanc. Elle ne voit pas l'intérêt. Elle a l'impression d'être morte. Elle est sortie demi-folle du film de Cukor, Women, où il n'y a que des femmes. Et parfois, l'une d'elles s'écrie en tournant la tête vers la porte. « Tiens, voici John, ou Marc, ou Philippe. » Mais jamais celui-ci n'entre dans le champ. Aucun corps d'homme, pas même une voix. C'est insupportable. Mais elle déteste aussi les films de guerre, les histoires de sous-marins mâles et d'amitié virile où les femmes n'apparaissent qu'en photographie dans un portefeuille et en souvenir ému juste avant la mort. L'intérêt passionné qu'elle porte aux hommes, il faut qu'ils le lui rendent. Elle aime les hommes qui pensent aux femmes. Dès qu'elle arrive quelque part ou qu'elle aille, elle regarde s'il y a des hommes. C'est un réflexe, un automatisme comme d'autres écoutent la météo, une façon d'anticiper le proche avenir, de savoir quel temps il va faire. L'attrait n'est pas d'abord physique, en tout cas pas nécessairement, même s'il le devient souvent. Elle n'a pas de type particulier, pas de fascination spéciale. blond, brun, grand, mince, trapu, fragile. Elle a des préférences, bien sûr, mais pas de système. Dans un premier temps, l'homme compte moins comme individu caractérisé que comme présence. C'est une réalité globale dont la vue s'assure aussitôt, où le cœur se rassure. Il y a des hommes. Elle ne va pas à leur rencontre, du moins pas comme on pourrait croire. Elles ne font pas sur eux pour les capter, les saisir, leur parler. Elle les regarde. Elle se remplit de leur image comme un lac du reflet d'un ciel. Elle les maintient d'abord dans cette distance qui permet de les réfléchir. Les hommes restent donc là longtemps, en face d'elle. Elle les regarde, elle les observe, elle les contemple. Elle les voit toujours comme ces voyageurs assis vis-à-vis d'elle dans les trains maintenant rares où cette disposition existe encore, non pas à côté d'elle, dans le même sens, mais en face, de l'autre côté de la tablette où gît le livre qu'elle écrit. Ils se tiennent là, c'est le sexe opposé. Je serai donc aussi ce personnage, on peut le penser bien sûr, puisque j'écris. Puisque c'est moi qui laisse épars entre nous les feuillets où je parle d'eux. Difficile d'y échapper tout à fait. Mais la question de la vérité ne se posera pas. Il ne s'agira ni de mon père, ni de mon mari, ni de personne. Il faudra qu'on le comprenne. Ce sera une sorte de double construction imaginaire, une création réciproque. J'écrirai ce que je vois d'eux et vous lirez ce qu'ils font de moi. Quelle femme je deviens en inventant cet inventaire. Les hommes de ma vie. Le cliché est à prendre au pied de la lettre, les hommes de ma vie, comme je dirais, les battements de mon cœur.
Alors on voit bien dans ce passage l'observation de l'extérieur à la troisième personne, le « elle », et puis le passage au jeu. Mais alors après, dans la suite du récit, le jeu est réservé aux séances de psychanalyse. Alors, pourquoi la psychanalyse? Pourquoi avoir choisi ce modèle, cette forme pour construire ce récit?
Il y a d'abord une raison presque technique qui est que j'avais besoin que ce personnage, cette narratrice, puisse parler très librement à quelqu'un, vraiment sans aucune... sans tabou, sans aucun interdit. Et donc... autrefois, peut-être, ça aurait été le confessionnal, et maintenant, c'est la psychanalyse qui permet le mieux cette confession. Et puis, d'autre part, bon, je m'intéresse moi-même personnellement beaucoup à la psychanalyse. J'ai une pratique en tant qu'analysante, et il me semblait que ça me permettrait justement à la fois d'interroger et d'explorer le livre intérieur tout en réservant les chapitres que le personnage écrit, consacrés chaque fois à des hommes, en réservant la troisième personne à ces chapitres-là. J'ai construit le livre de cette façon-là, l'alternance des chapitres du livre qu'elle écrit, qui reprennent des épisodes de sa vie qui ont toujours comme titre une fonction d'homme, disons, l'amant, le père, le fils. Il n'y a pas le Saint-Esprit, mais il y a le Christ. Et le jeu pour les séances d'analyse, parce que c'est une espèce de lecture intime. Mais parce que j'ai toujours besoin, et dans mes autres livres, je trouve toujours une forme qui me permette de faire ces variations de focales, au fond, pour justement bien montrer qu'il n'y a pas simplement un jeu qui serait le jeu de la narration, mais un autre personnage qui serait le « elle », mais qui peut être aussi le « tu » dans certains autres romans. Enfin, tous les pronoms sont utilisés, au fond... Dans mes romans, pour désigner éventuellement la même personne ou pour créer des dialogues, et parfois même d'ailleurs dialogues de moi-même à moi-même.
Oui, alors il faut juste rappeler que la relation avec le psychanalyste dans ces bras-là n'est pas complètement orthodoxe, parce qu'en fait elle a suivi dans la rue un homme.
qui s'est avéré
être un psychanalyste, oui. Et donc elle entreprend des séances de psychanalyste pour le séduire, en fait. Et donc, mais elle veut le séduire en lui montrant ce qu'elle est par ce biais. Voilà. Et comme dans beaucoup d'autres livres, l'interlocuteur est absent. Enfin, il y a un double dialogue, parce qu'il y a ce qu'elle dit au psychanalyste et puis il y a ce qu'elle lui dit dans sa tête, dans son esprit, qui est en italique. Et, voilà. Ce qu'elle attendrait comme retour de sa part. Et alors justement, dans Romance nerveuse, là, le jeu est assumé tout en alternant avec le tu. Et en même temps, c'est un jeu qui est dédoublé entre, on pourrait dire, le moi et le surmoi, qui prend le nom de Ruel, hein, le surmoi, qui est un peu l'instance morale. Elle est un peu cruelle, mais elle est rationnelle. Et en fait, elle intervient contre le moi énamouré, qui accepte de se laisser maltraiter par le paparazzo, parce que c'est donc une histoire avec un paparazzo. Alors, qui est jeu dans Romance nerveuse ?
Ben justement, j'avais besoin là encore de, au minimum, de le dédoubler. Et donc, j'ai imaginé une jumelle du jeu qui serait une sorte de fantôme, mais qui apparaîtrait au moment opportun ou parfois inopportun, parce qu'elle est un petit peu casse-pied, elle ramène sa fraise à un moment où la narratrice n'a pas du tout envie de la voir. Et alors, je l'ai fait parce que. J'avais besoin de cette division, pour exprimer le clivage qui est, je pense, en chacun de nous, entre une instance rationnelle, en effet, et puis un jeu, un moi plus pulsionnel qui se jette dans le piège amoureux tendu par ce paparazzo et donc
corps perdu.
Et voilà, oui, un corps perdu, exactement. Et donc c'est oui, pour aller vite, c'est le moi et le surmoi, mais c'était aussi une façon pour moi de réfléchir à quelque chose qui s'est inversé en fin de compte depuis l'époque de Freud, c'est-à-dire que dans le monde de Romance nerveuse tel que je le présente, ce n'est plus les pulsions qui sont refoulées comme dans au bon vieux temps du refoulement, mais c'est le surmoi maintenant qui est refoulé, notamment le paparazzo n'a aucun surmoi, c'est-à-dire qu'il est dans la libération totale et constante de ses instincts, de ses désirs, il est dans la recherche permanente de la jouissance, que ce soit par la vitesse, par la drogue, par la musique, par le sexe. Et donc, ça m'intéressait de placer en face de ce personnage très contemporain, très humain en même temps, une instance plus... plus conservatrice, au fond, plus réactionnaire, qui dit, mais attends, on peut pas faire ça, on peut pas laisser la bride à tout.
Oui, alors il y a un dualisme réflexif qui renvoie à cette opposition entre rationalisme et spontanéité, entre esprit et corps, hein, c'est très, très présent dans l'œuvre en général. Et tes personnages féminins, ils sont toujours à la fois rationnels et sensuels, ce qui n'est pas commun d'ailleurs dans la littérature, hein, à part peut-être Simone de Beauvoir, souvent c'est soit l'un soit l'autre, mais c'est rarement réuni. Voilà, alors je me demandais si le dédoublement, dans ce cas, c'était pas le prix à payer en fait pour ce dualisme.
Ah oui, oui, je pense que moi, c'est le grand drame de ma vie. Non, mais cette question que pose d'ailleurs le paparazzo quand elle lit ou quand elle écrit, lui dit « Ah, mais tu n'es pas dans la vraie vie. » Alors, est-ce que la vraie vie, c'est la vraie vie au sens de Proust ? La vraie vie, la vie véritablement vécue, c'est la littérature, ou est-ce que la vraie vie, c'est la vie au sens de Luc dans Romance nerveuse, c'est-à-dire la vie à grande guide, mais où le corps prime.
Et en fait, lui, il photographie tout le temps des stars et il dit à la narratrice, il commence à s'intéresser à ses livres quand il voit qu'on parle d'elle dans la presse et il lui dit, il faudrait que tu parles de la vraie vie alors qu'elle elle parle de sa vie, elle raconte sa vie. Et donc, il y a une sorte de... Et c'est intéressant parce qu'il y a une évolution dans le roman où finalement, le paparazzo qui est l'observateur, qui est celui qui passe son temps à observer, il y a un renversement inversement, l'observateur devient observé. D'ailleurs, il est assez flatté à un moment donné de comprendre qu'il devient l'objet d'un
roman. Oui, il le demande même.
Mais c'est aussi, il le demande, oui. Et, mais c'est aussi un renversement de situation assez intéressant. Donc, est-ce que le narrateur ou la narratrice a toujours le dessus, en fait?
Dans une des deux vraies vies, oui. non, mais oui, c'est en effet le fait qu'il soit.
C'est rapport avec la photo, en fait.
Le fait qu'il soit paparazzo, c'est intéressant parce que lui cherche toujours à capter, en quelque sorte, le secret, la vie privée, là, le secret, ce qu'on ne veut pas montrer. Lui, il cherche à le photographier, à le fixer. Et en fin de compte, ça n'est pas très différent de ce que cherche le romancier, enfin en tout cas le romancier tel que je l'envisage, que j'envisage en fait comme un détective. C'est pour ça que Index, ce n'est pas un hasard non plus, si c'est une enquête de type policier. Et puis tous mes romans suivants, hein, il y a des détectives, il y a vraiment des enquêtes qui n'aboutissent pas forcément. C'est-à-dire que je vois vraiment l'écrivain comme quelqu'un qui cherche à élucider un mystère, à dénouer les fils d'une intrigue et à aller voir là où personne ne peut aller voir. Et le paparazzo, avec ce qu'il peut y avoir d'amoral, évidemment, là-dedans, fait la même chose.
Alors, le tu et le vous sont centraux dans tes écrits. Il y a un jeu, mais il y a toujours aussi un destinataire. Enfin, mais en même temps, les dialogues sont insérés dans soit des conversations imaginaires, comme dans Le flux de conscience, comme souvent on parle à quelqu'un en marchant, en réfléchissant, ou alors elles peuvent prendre la forme écrite de la correspondance. Et ça, c'est le cas dans Ni toi ni moi. Donc là, c'est la forme de Ni toi ni moi. Donc c'est un livre où il y a l'écriture d'un scénario tiré du récit d'une expérience vécue est encastrée dans un échange de mails entre la narratrice et donc l'auteur, en fait, qui dans le récit donc s'appelle Hélène, mais qui apparaît sous le nom de Camille à la fin, et le réalisateur qui souhaite adapter ce récit à l'écran. Et dans ces échanges de mails, en fait, qui d'une certaine manière remettent le roman épistolaire au goût du jour et puis le modernisent, hein, d'une certaine manière, on n'a que la partie de l'auteur, donc comme un peu comme avec le psychanalyste, hein, et il est dit que le réalisateur a refusé la publication, bon, ça c'est le cadre de la publication de ces échanges, et que du coup le lecteur est appelé à deviner, comme, et là encore plus, donc on fait intervenir le lecteur dans l'interaction. Donc il y a trois récits qui s'enchevêtrent, il y a la relation qui est en fait fictionnelle avec le réalisateur, il y a l'histoire vraie qui forme la trame du scénario, et il y a... dans le scénario, il y a aussi l'adaptation d'Adolphe de Benjamin Constant par les personnages du film qui met en abîme en fait, le récit de l'amour impossible d'Hélène et d'Arnaud. Et il y a un quatrième récit aussi qui est le conte enfantin d'Anderson que Hélène lit à sa fille, Lise, c'est La Reine des Neiges. Voilà. Alors comment est-ce que ces récits s'éclairent l'un l'autre ?
Voilà, c'est une construction assez élaborée parce que j'avais envie de mettre en perspective le travail d'écriture que je menais et la littérature dans tout ce qu'elle m'apporte dans l'écriture, mais aussi dans la vie courante. Et comme c'est l'histoire d'un désamour, en fait, on pourrait dire, donc une passion qui dure très peu de temps et qui ensuite se délite de façon extrêmement violente et douloureuse. J'ai pensé à ce roman de Benjamin Constant qui est sublime, Adolphe, qui raconte. Alors ça n'est pas un roman autobiographique, mais il y a beaucoup d'éléments de la vie de Benjamin Constant, parce qu'on le voit dans son journal, dans les différents journaux intimes qu'il a tenus, et donc qui raconte la même chose, la passion d'Adolphe pour une femme, et puis sa déprise, sa désaffection presque immédiate Et donc je me disais, finalement, c'est cette lecture, la lecture de Benjamin Constant, qui m'aide, moi, maintenant, au XXIe siècle, à comprendre ma propre vie. Donc la réflexivité, elle est là aussi, dans cet apport de l'écriture, de la littérature. Et c'est la même chose pour le conte d'Andersen, qu'elle lit à sa fille, parce que c'est aussi une démultiplication de la perspective des jeux de miroir entre des personnages de fiction, de contes, de romans et ce qu'elle raconte elle-même. Et puis le film, parce que la trame du roman, c'est vraiment l'exploration du cinéma par rapport à la littérature. Qu'est-ce qui change dans le passage à l'image, qu'est-ce qui est si différent, et puis aussi parce que ce cinéaste veut adapter une nouvelle qu'elle a écrite, et donc comment est-ce que votre vie est perçue par quelqu'un d'autre, et comment il va l'adapter, et donc forcément la traduire, et donc forcément la trahir un peu. Voilà, et donc de façon un peu prémonitoire, puisque maintenant je suis en train de travailler un scénario dans ces bras-là, de façon un peu prémonitoire, je réfléchissais à... la façon d'écrire des dialogues et aux clichés que je sens, c'est qu'à le dire pour un art de l'image, mais aux clichés que je sens parfois dans la littérature évidemment, mais dans le cinéma beaucoup. Et donc comment on fait, comment on réalise une scène d'amour, comment le dialogue, l'image peuvent sans tomber dans le cliché, le stéréotype, rendre compte du réel, c'est, qui est aussi la question, bien sûr, de la littérature.
Alors, on pourrait peut-être lire un passage, justement, de Ni toi ni moi, sur ce scénario.
Intérieur jour, chez Hélène. Arnaud vient de sonner, montrer son visage sombre, peut-être. Il entre. C'est la première fois qu'il vient chez elle, qu'ils sont seuls ensemble. On voit sur la cheminée les roses qu'il lui a envoyées quelques jours plus tôt. Il est au milieu de la pièce, il ne bouge pas,